Ah, je sais bien, répondit Genesta, que le mérite d'une bonne action s'envole au moindre profit qu'on en retire. La raconter, c'est s'en constituer une rente d'amour-propre qui vaut bien la reconnaissance. Cependant, si l'honnête homme se taisait toujours, l'obligé ne parlerait guère du bienfait. Dans votre système, le peuple a besoin d'exemples. Or, par ce silence général, où donc en trouverait-il? Encore autre chose. Si notre pauvre pontonnier qui a sauvé l'armée française et qui ne s'est jamais trouvé en position d'en jaser avec fruit, n'avait pas conservé l'exercice de ses bras, sa conscience lui donnerait-elle du pain? Répondez à cela, philosophe. Peut-être n'y a-t-il rien d'absolu en morale, répondit Benassi. Mais cette idée est dangereuse. Elle laisse l'égoïsme interpréter les cas de conscience au profit de l'intérêt personnel. Écoutez, capitaine, l'homme qui obéit strictement aux principes de la morale n'est-il pas plus grand que celui qui s'en écarte, même par nécessité? Notre pontonnier, tout à fait perclus et mourant de faim, ne serait-il pas sublime au même chef que l'est Homère? La vie humaine est sans doute une dernière épreuve pour la vertu, comme pour le génie, également réclamée par un monde meilleur. La vertu, le génie, me semblent les deux plus belles formes de ce complet et constant dévouement que Jésus-Christ est venu apprendre aux hommes. Le génie reste pauvre en éclairant le monde. La vertu garde le silence en se sacrifiant pour le bien général. D'accord, monsieur, dit Genesta. Mais la terre est habitée par des hommes et non par des anges. Nous ne sommes pas parfaits. Vous avez raison, reprit Benassi. Pour mon compte, j'ai rudement abusé de la faculté de commettre des fautes. Mais ne devons-nous pas tendre à la perfection? La vertu n'est-elle pas pour l'âme un beau idéal qu'il faut contempler sans cesse comme un céleste modèle? Amen, dit le militaire. On vous le passe. L'homme vertueux est une belle chose, mais convenez aussi que la vertu est une divinité qui peut se permettre un petit bout de conversation en tout bien, tout honneur. Ah, monsieur, dit le médecin en souriant avec une sorte de mélancolie amère, vous avez l'indulgence de ceux qui vivent en paix avec eux-mêmes, tandis que je suis sévère comme un homme qui voit bien des taches à effacer dans sa vie. Les deux cavaliers étaient arrivés à une chaumière située sur le bord du torrent. Le médecin y entra. Genesta demeura sur le seuil de la porte, regardant tour à tour le spectacle offert par ce frais paysage et l'intérieur de la chaumière où se trouvait un homme couché. Après avoir examiné son malade, Benassi s'écria tout à coup: Je n'ai pas besoin de venir ici, ma bonne femme, si vous ne faites pas ce que j'ordonne. Vous avez donné du pain à votre mari. Vous voulez donc le tuer? Sac à papier! Si vous lui faites prendre maintenant autre chose que son eau de chien-dent, je ne remets pas les pieds ici, et vous irez chercher un médecin où vous voudrez. Mais mon cher monsieur Benassi, le pauvre vieux criait la faim, et quand un homme n'a rien mis dans son estomac depuis 15 jours. Ah ça! Voulez-vous m'écouter? Si vous laissez manger une seule bouchée de pain à votre homme avant que je lui permette de se nourrir, vous le tuerez, entendez-vous? On le privera de tout, mon cher monsieur. Va-t-il mieux? Dit-elle en suivant le médecin. Mais non, vous avez empiré son état en lui donnant à manger. Je ne puis donc pas vous persuader, mauvaise tête que vous êtes, de ne pas nourrir les gens qui doivent faire diète. Les paysans sont incorrigibles, ajouta Benassi en se tournant vers l'officier. Quand un malade n'a rien pris depuis quelques jours, il le croit mort et le bourre de soupe ou de vin. Voilà une malheureuse femme qui a failli tuer son mari. Tuer mon homme pour une pauvre petite trempette au vin? Certainement, ma bonne femme. Je suis étonné de le trouver encore en vie après la trompette que vous lui avez apprêtée. N'oubliez pas de faire bien exactement ce que je vous ai dit. Oh, mon cher monsieur, j'aimerais mieux mourir moi-même que d'y manquer. Allons, je verrai bien cela. Demain soir, je reviendrai le saigner. Suivons à pied le torrent, dit Benassi à Genesta. D'ici la maison où je dois me rendre, il n'existe point de chemin pour les chevaux. Le petit garçon de cet homme nous gardera nos bêtes. Admirez un peu notre jolie vallée, reprit-il. N'est-ce pas un jardin anglais? Nous allons maintenant chez un ouvrier inconsolable de la mort d'un de ses enfants. Son aîné, jeune encore, a voulu pendant la dernière moisson travailler comme un homme. Le pauvre enfant a excédé ses forces. Il est mort de langueur à la fin de l'automne. Voici la première fois que je rencontre le sentiment paternel si développé. Ordinairement, les paysans regrettent dans leurs enfants morts la perte d'une chose utile qui fait partie de leur fortune. Les regrets sont en raison de l'âge. Une fois adulte, un enfant devient un capital pour son père. Mais ce pauvre homme aimait son fils véritablement. Rien ne me console de cette perte, m'a-t-il dit un jour que je le vis dans un pré, debout, immobile, oubliant son ouvrage, appuyé sur sa faux, tenant à la main sa pierre à repasser qu'il avait prise pour s'en servir et dont il ne se servait pas. Il ne m'a plus reparlé de son chagrin, mais il est devenu taciturne et souffrant. Aujourd'hui, l'une de ses petites filles est malade. Tout en causant, Benassi et son hôte étaient arrivés à une maisonnette située sur la chaussée d'un moulin à temps. Là, sous un saule, ils aperçurent un homme d'environ 40 ans qui restait debout en mangeant du pain frotté d'ail. Eh bien, Gasnier, la petite va-t-elle mieux? Je ne sais pas, monsieur, dit-il d'un air sombre. Vous allez la voir. Ma femme est auprès d'elle. Malgré vos soins, j'ai bien peur que la mort ne soit entrée chez moi pour tout m'emporter. La mort ne se loge chez personne, Gasnier. Elle n'a pas le temps. Ne perdez pas courage,